libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Manuscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite, ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Radio Libertaire 89.4. Nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Ce soir, nous allons parler du greenwashing autour d'un livre qui s'appelle Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public aux éditions du Seuil. C'est un livre collectif. On reviendra tout de suite à quel est ce collectif et nous recevons l'une des membres de ce collectif, Laure Tellière. Alors, sauver la planète, croissance verte, transition énergétique, écologique, consommation responsable, etc. Production, consommation, discours politique semblent tous être animés de l'ambition vertueuse de nous amener vers un avenir soutenable. En réalité, cette communication regorge d'escroqueries sémantiques et de stratégies d'enfumage qui évitent de remettre en question le système responsable de la catastrophe. Alors, on reçoit donc Laure Tellière. Laure, est-ce que tu peux te présenter brièvement et est-ce que tu peux présenter le collectif Atécopole ?
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. J'appartiens au laboratoire Framespa. Et donc, dans mon parcours universitaire, j'ai travaillé d'abord sur une perspective d'histoire culturelle. Je suis devenue spécialiste de l'histoire des migrations, notamment en co-dirigeant la revue Diaspora, Migration, Histoire et Société. Et maintenant, je travaille plutôt la question écologique et donc notamment la place que peuvent occuper les récits historiens dans la compréhension de ces enjeux-là et de où nous en sommes. Et par ailleurs, je suis cofondatrice d'un collectif, effectivement, à Toulouse qui s'appelle l'Atécopole, l'Atelier d'écologie politique, qui est un collectif, en fait, qu'on a fondé il y a 4 ans. Pour justement essayer de faire face en tant que scientifique aux enjeux écologiques, pour essayer d'adopter une autre manière d'intervenir dans le débat public et de porter ces enjeux-là et de s'y inscrire de manière engagée, en fait.
D'accord. Qui fait partie de ce collectif ?
Alors, c'est un collectif qu'on a voulu incarnant les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que pour nous, c'était nouveau qu'on puisse prendre une position depuis ces professions-là, depuis notre milieu et depuis les réalités de l'ESR, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, de ce fait, on a décidé d'être une initiative de site destinée aux chercheurs, enseignants-chercheurs, statutaires ou précaires, ingénieurs d'études, etc., et doctorants du pôle universitaire toulousain. Ouais. Et du coup, comme on ne voulait pas être une initiative de type chat en ligne ou etc., quand d'autres collègues d'ailleurs en France nous ont contactés parce qu'ils trouvaient intéressant ce qu'on faisait, on a décidé de leur proposer d'essaimer, en fait. Et donc maintenant, des collectifs comme le nôtre existent aussi bien en région parisienne qu'à Montpellier, à Marseille, à Rennes, à Bordeaux, etc. Et on est articulé encore à d'autres qui existaient auparavant mais qui ont voulu maintenant se rattacher à cette dynamique des ateliers d'écologie politique.
Okay, d'accord. D'accord. Je donne juste une précision. Vous devez peut-être entendre des petits coups. Il s'agit de travaux qui ont lieu probablement tout près d'ici. On ne peut rien y faire. Donc, veuillez nous excuser. On n'y peut rien. On espère que ça va pas trop gêner l'écoute de l'émission. C'est extrêmement chiant, mais voilà.
Ouais, ou alors, nos propos, parce qu'on a un peu de mal à se concentrer.
Oui, voilà.
Mais enfin, ça va aller, on va faire avec.
Voilà. Alors, Laure, est-ce que tu peux tout simplement expliquer ce qu'est le green washing et quelles sont les principales techniques de greenwashing?
Alors, le greenwashing, c'est plusieurs choses emboîtées. En fait, avec cet ouvrage donc qu'on a intitulé Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public, donc c'est déjà une manière de dire l'intention de l'ouvrage. L'intention de l'ouvrage, c'est d'avoir un ouvrage qui est destiné à aider au débat public, à armer les citoyens et les citoyennes face à des enjeux qui sont souvent mal positionnés, où il y a des effets d'enfumage très forts, comme tu le disais en introduction, dans le débat public. Donc c'est pour ça qu'on s'est réunis à 35 auteurs, en fait. Hein, donc j'ai coordonné cet ouvrage avec Guillaume Carbou et Aurélien Berland, et il y a 35 auteurs spécialistes, essentiellement des universitaires, des chercheurs, des scientifiques, mais aussi quelques journalistes, quelques professionnels engagés ou quelques activistes. Et donc, l'idée, c'était de prendre le greenwashing dans un sens, je dirais, du plus simple au plus complexe. Donc, le plus simple, c'est ce que chacun peut connaître et comprendre. Le greenwashing, c'est des effets de communication frauduleuse, de communication verte, de petit enfumage marketing pour présenter un produit, un service, une activité comme verte, alors qu'en vérité, les effets écologiques sont soit nuls, soit insignifiants, soit même délétères. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Ça fait longtemps que des assos militantes délivrent le prix Pinocchio de la communication pseudo-verte la plus mensongère, etc. Nous, on a voulu aller un petit peu plus loin. Alors, ce premier sens, en fait, il faut comprendre d'où il est venu. C'est en fait, durant les années 80 et précisément à la fin des années 80 que ce terme apparaît, ce terme qui est un néologisme évidemment, qui est apparu d'abord en anglais, porté par des activistes et écologistes, notamment Greenpeace, des mouvements anti-nucléaires, et en fait c'était un terme en défense contre cette nouvelle stratégie de firmes en particulier, de multinationales, pour essayer de récupérer la cause verte. Alors, pour comprendre cette situation-là, à ce moment-là, il faut revenir encore un cran en arrière. Donc, je ne suis pas historienne pour rien, j'ai toujours tendance à remonter comme ça les mécanismes. Donc, en fait, le greenwashing est devenu croissant à mesure que la question environnementale a pris de l'ampleur. Donc, dans les années 70, il y a eu finalement toute une mobilisation, une florescence de courants, de luttes pour porter l'enjeu environnemental à un moment où, bien dans les sociétés occidentales, pour ne parler que de cet aspect des choses, toute une partie de la population, de la jeunesse en particulier, se rendait compte que l'activité humaine, le monde industriel pesait de plus en plus sur l'environnement et notre relation à l'environnement. Donc il y a eu des mobilisations, des pressions très fortes finalement sur la sphère politique, sur les pouvoirs publics, à tel point que des mesures ont commencé à être mises en place pour essayer de limiter les impacts délétères sur l'environnement, de contraindre le monde économique et certaines activités. Et du coup, dans les années 80, les acteurs économiques majeurs, les grandes firmes, les multinationales, notamment les plus impactantes, les plus polluantes, ont eu deux types de réactions. Soit le déni et la lutte contre, disons, ces mouvements pour essayer de les faire taire, de les limiter, voilà. Soit la récupération. Et donc c'est dans le cadre de cette récupération qu'est né ce qu'on a fini par appeler le greenwashing, c'est-à-dire une logique de d'écologisation de l'entreprise qui parfois pouvait avoir certains éléments de réalité, mais qui souvent était aussi une démarche de faux-semblant. Voilà. Donc c'est pour ça que les activistes ont créé ce terme. Alors en France, on peut parler d'éco-blanchiment, mais nous on a choisi de reprendre le terme greenwashing tel quel parce qu'il est très imagé et puis il est connu en tant que tel. Bon, alors tout ça, c'est le sens premier du greenwashing. Voilà, communication trompeuse pour essayer d'avoir de fausses prétentions sur l'aspect écologique d'un produit, d'une activité ou d'un dispositif. Dans ce livre, nous, on considère qu'il faut aller vraiment plus loin, parce que maintenant, on est à plusieurs décennies de distance de cette naissance du greenwashing, et selon nous, le phénomène est beaucoup plus général. Beaucoup plus général parce que l'enjeu écologique est devenu de plus en plus crucial et désormais omniprésent dans le débat public. Et donc nous, on voit dans le greenwashing un phénomène plus large qui est une tendance à mal penser les enjeux écologiques, à mal les saisir et du coup à mal y répondre. À la fois pour défendre des purs intérêts, hein, mais aussi plus largement, parfois presque de bonne foi, par tout un tas d'acteurs en fait qui, dans certains cas, font du greenwashing sans le savoir. Voilà. Donc du coup, l'ouvrage est vraiment bien autre chose qu'une simple petite dénonciation des faits de com, de petits enfumages. C'est une tentative pour penser au sens fort un greenwashing structurel dans notre société qui participe à sa reproduction, qui participe en fait à cet effet d'inertie que tout le monde ressent, pourquoi on n'arrive pas à inverser les logiques du système, notamment par rapport aux questions environnementales. Et l'ouvrage est une tentative d'en saisir à la fois les formes et les fonctions. À quoi ça sert ce greenwashing? Qu'est-ce que ça défend?
D'ailleurs, dans le bouquin, vous écrivez, hein, le collectif, que le greenwashing fonctionne comme une idéologie au sens de Marx. Et qu'il y a aussi un aspect de psychologie collective, c'est que le greenwashing serait le dernier rempart contre la panique. Voilà, est-ce que tu peux développer un peu ça ?
Oui, finalement, en y réfléchissant, et nous, dans l'introduction, bon, l'introduction à l'ouvrage qu'on a fait, elle est, disons, un peu... pas théorique, mais en tout cas, elle essaye de ressaisir le problème dans toute son ampleur. Du coup, presque, on conseille aux gens de parcourir le bouquin par les autres entrées. C'est un bouquin où il y a 24 entrées thématiques. On peut le prendre dans tous les sens, en fonction de ses curiosités, ses intérêts, etc. Et l'intro, c'est peut-être un peu ce qui pose, voilà, l'aspect général du problème. Et en y réfléchissant, on s'est rendu compte qu'en effet, même si le greenwashing, comme je le disais, recouvre des intérêts très clairs, des rapports de pouvoir, il entre dans des rapports de domination qui structurent notre société, en même temps, on pense qu'aujourd'hui remplit aussi une forme de, disons, de maintenir notre zone de confort collective, parce que se confronter au fait de réaliser l'ampleur de la problématique environnementale, le caractère tellement systémique et inextricable des mécanismes qui entretiennent les problèmes auxquels on doit faire face et dont on devrait se dépatouiller d'urgence, enfin voilà, dont on devrait pouvoir bifurquer d'urgence, eh bien ça a quelque chose d'un peu sidérant, anéantissant, inquiétant, etc., anxiogène, bon. Et du coup, il y a une sorte de tendance finalement assez facile à comprendre, de céder au greenwashing par facilité en quelque sorte, sans trop se poser de questions, parce que ça a un côté rassurant et séduisant de penser que, ah ben oui, finalement il y a des solutions, ah ben oui, finalement le problème est pris en charge, ah ben oui, finalement si je fais ce petit geste, bon ben voilà, je fais ma part, etc. Donc il y a toutes sortes de mécanismes comme ça, un peu de réassurance, qui participent à alimenter sans même souvent s'en rendre compte, le greenwashing.
Oui. Et alors aussi, ce qui est frappant, dans le bouquin aussi, vous mettez en parallèle le greenwashing et le green bashing. En même temps, il n'y a jamais eu, enfin à ma connaissance, autant de criminalisation de l'activisme écologique, voilà, ou d'insultes, éco-terrorisme, etc., ou de poursuites judiciaires. Est-ce que tu peux développer ça?
Ben oui, tout à fait. En fait, ça aussi, ça nous a apparu de manière très claire. Mais on le comprend aisément si on revient à ce que j'ai décrit au début, c'est-à-dire les conditions de naissance du phénomène du greenwashing, où il est arrivé un moment où les historiens, et notamment les historiens américains qui ont écrit sur ces questions-là, analysent ce moment des années 80 comme aussi un moment de green backlash. Alors, ça fait beaucoup de green ceci, hein, green bashing, greenwashing, green backlash. Mais en fait, c'est assez simple à comprendre. Le green backlash, c'est le retour de bâton vert ou anti-vert, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai décrit tout à l'heure, un moment dans les années 70 où la question environnementale était portée par des mouvements sociaux assez larges, en particulier des mouvements sociaux articulés à la jeunesse, à la contre-culture, au post-68, que ce soit en France ou ailleurs, enfin à ces années-là de contestation. Bon, il y a eu dans les années 80 un retour de bâton à l'inverse, orchestré à la fois par les intérêts privés, les grandes entreprises, des grands groupes, mais aussi par les gouvernements, les administrations, des structures de pouvoir qui avaient intérêt ou par idéologie souhaitaient accompagner le business as usual des structures économiques capitalistes. Voilà. Et donc, ce mouvement de backlash, de retour de bâton, il se poursuit d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui il se réveille d'une manière assez forte. Voilà. Et du coup, le green bashing, ça reste ça, c'est-à-dire en même temps qu'on fait de la récupération ou qu'on voit des processus de récupération, de green washing, on peut voir aussi à l'œuvre des processus de stigmatisation, c'est-à-dire pour ceux qui développeraient des idées d'écologie plus politique, plus radical, plus articulé à une critique plus large de la société, de son fonctionnement, eh bien on court très vite le risque de se voir effectivement traité aujourd'hui, c'est très clair, hein, comme tu as commencé à le montrer, le terme d'éco-terroriste, la façon dont il est amené et construit dans le débat public est quand même très très significatif, parce que ça fait déjà des années qu'il y a des discours stigmatisants ou dénigrants, mais qui étaient plus soft. C'était l'écologie réaliste plutôt que l'écologie des rêveurs ou l'écologie punitive. Les écologistes de progrès plutôt que les Amish ou que les partisans du retour à la bougie. Bon, tout ça, ce sont des logiques rhétoriques qui existaient, qui ont été bien analysées par des sociologues ou d'autres, des politistes. Bon, voilà. Mais là, ces derniers temps, et en particulier avec la sortie du ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, par rapport à la lutte récente contre les méga-bassines, là, dans les Charentes, le fait de traiter des manifestants qui se sont affrontés aux forces de l'ordre, mais malgré tout dans un type d'activité militante et manifestante très classique, finalement, les traiter d'éco-terroristes, c'est vraiment un pas en avant qui est assez ahurissant, finalement. nous-mêmes à Toulouse, par exemple, je pourrais en reparler, mais on a été quelques-uns à faire une manifestation de type happening activiste au titre de scientifique en rébellion, en faisant irruption dans une manifestation publique organisée par le journal La Tribune, France Urbaine et Toulouse Métropole. Mais c'était très pacifique. On est monté sur la tribune pour reposer les termes du débat de l'alerte écologique dans un dispositif, disons, de discours public qui était à la fois porteur de choses intéressantes, mais aussi de certains discours de type greenwashing, de récupération. Bon, et suite à ça, de la même manière, certains élus de Toulouse Métropole ont qualifié cette action d'action terroriste, d'action radicale, violente. Enfin, ce qui est une espèce d'outrance tout à fait construite, tout à fait volontaire pour durcir le climat et pour faire en sorte qu'un certain nombre de critiques n'aient pas droit de citer sur la place publique.
Ça va même très loin, ça va même jusqu'aux poursuites judiciaires. Il y a actuellement un journaliste de Reporter, que c'est un média que vous devez connaître, qui est poursuivi en justice. Enfin, je veux dire, je trouve que ça va de plus en plus loin.
Bien sûr, ça va de plus en plus loin. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être grand prêtre ou grand mage pour dire que ça va continuer à aller dans cette direction. Parce que à mesure qu'on voit dans quelle inertie on est, il y a de plus en plus de mouvements, de jeunes, mais pas que, chez les scientifiques aussi, en France, internationalement, qui cherchent de nouvelles voies pour se faire entendre, ou en tout cas pour accélérer à la fois la prise de conscience, mais aussi la manière de réagir au sein de la société, et qui cherchent des voies d'action. Et pour l'instant, tous ces mouvements ont fait preuve de moyens, qui sont des moyens symboliques, certes dérangeants, qui peuvent être intrusifs ou causer des ennuis à telle ou telle activité, mais qui sont pas des moyens violents, certainement pas. Et pourtant, il y a une criminalisation croissante qu'on voit effectivement monter. Donc dans la presse, il y avait déjà eu des alertes de ce type, c'est pas la première fois que sur des manifestations un peu dures, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, à Sivens, aujourd'hui sur les méga-bassines, à Bure, bien sûr, quand les enjeux sont très forts, les journalistes sont assimilés à la réalité sur laquelle ils enquêtent et dont ils témoignent, c'est-à-dire à des actions militantes. Effectivement, c'est grave. Là, il y a une mobilisation en réponse de tout un tas de professionnels, du journalisme, des médias, c'est tout à fait normal. Mais bon, effectivement, il y a une espèce de jeu pour savoir jusqu'où aller entre le pouvoir, le ministère de l'Intérieur, et puis on va voir comment la justice réagit à ça. En termes d'action, on voit aussi des actions de désobéissance civile de plus en plus entreprenantes d'un certain nombre de groupes. Il y a XR, ANVCOP 21, Dernière Rénovation. Enfin, il y a plusieurs groupes qui sont là et qui commencent à faire des sittings sur des voies publiques, s'introduire dans des compétitions sportives, etc., etc. Des tableaux sous vitrine, donc qui sont quand même des actions symboliques. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. Je comprends que des gens considèrent que c'est pas forcément la solution, que ça fait pas forcément avancer les choses, etc. Bon, ça, chacun est libre effectivement de son opinion. Et puis les groupes qui font ce genre de choses ont certainement des questions à se poser sur ce qui est le plus pertinent à tel ou tel moment, etc. Mais par contre, il faut évidemment se garder d'accoler une vision qui est porté par le discours ambiant et qui assimilerait ça à du terrorisme violent. Parce que ça, c'est faux, c'est vraiment une construction publique pour décrédibiliser ces actions. Au moment même où, malgré tout, quoi qu'on en dise, elles sont extrêmement nécessaires. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une mobilisation collective rapide pour essayer de réagir à ce qui nous arrive en termes environnementaux, maintenant, les scientifiques, et pas que les scientifiques d'ailleurs, il suffit d'écouter maintenant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Bon, là, il faisait ces jours-ci l'ouverture de la COP15 sur la biodiversité. Il n'y a pas que le climat, c'est dans tous les domaines qu'on est maintenant vraiment le dos au mur face à des problématiques qui mettent à mal notre possibilité d'habiter cette planète.
Oui, ouais. Oui. Et cependant, enfin, on n'a pas l'impression que ça produise des effets qui soient proportionnels à l'ampleur du problème. Alors, vous écrivez d'ailleurs dans l'introduction du livre que le greenwashing est structuré par trois biais qui bloquent précisément toute réflexion. Il y a l'économisme, le solutionnisme technologique et la pensée en silo. Est-ce que vous pouvez développer brièvement ces trois éléments?
Brièvement ou pas trop brièvement, mais
oui, parce que c'est pour nous. Oui, pas trop, voilà. Clairement, on va dire.
C'est pour nous, des points clairs. Oui. Non, mais...
oui.
La personne qui enregistre se marre parce que j'ai tendance à parler trop, j'imagine, mais bon. Mais bon, effectivement, voilà, nous on a essayé d'analyser ce greenwashing qu'on voit à l'œuvre dans plein de domaines, puisque le sommaire de l'ouvrage, ça va de agriculture jusqu'à véhicules propres, de tourisme, écotourisme à ville durable. Enfin, en fait, le greenwashing peut s'appliquer à vraiment tout un tas de domaines. Et on s'est interrogé sur quelques caractéristiques transversales de fond qui permettent de comprendre pourquoi il y a cette espèce de d'omniprésence en fait du greenwashing, pourquoi c'est un phénomène aussi vaste, aussi polyvalent finalement dans ses formes et sa capacité de s'adapter à plein de domaines. Et bon, il nous a paru que effectivement notre société est marquée par des effets de canalisation, des pensées, des discours, des fonctionnements sociaux qui sont systématiquement orientés, hein, c'est quelque chose de très structurel, c'est un fait social majeur, par certains biais. Et donc, ces biais, on en a identifié trois, mais évidemment, il pourrait y en avoir d'autres. Hein, c'est pas exclusif, c'était pour mettre l'accent, le focus sur ceux-là qui sont importants, même s'ils sont pas les seuls. Donc, le premier, en effet, c'est l'économisme. Ça, je crois que c'est une évidence pour tout le monde. Tout le monde qui a maintenant, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, on est tous nés dans une société très marquée par l'économisme. Quoi. La lunette de l'économie et de l'économie mainstream, parce qu'en vérité, il y a des courants d'idées différents dans l'économie, mais il y a un courant dominant qui est celui qui écrase les autres et qui a, disons, table ouverte pour être dans une posture d'expertise, pour donner des leçons, pour orienter essentiellement le politique et les grandes décisions publiques. En tout cas, jusqu'à présent, c'était ça. Cet économisme, là, il est omniprésent. Et bon, voilà. Et c'est une grosse partie du cadrage qui nous a conduit où nous en sommes. C'est-à-dire que la situation écologique actuelle, dans ses problèmes intriqués, vient aussi de cette espèce d'obstination à utiliser avant tout le prisme économique pour comprendre les enjeux, à faire du réductionnisme de tout type d'enjeux pour les réduire à quelque chose analysable au prisme de cet économisme mainstream, c'est-à-dire quelque chose qui est comptabilisable, où on peut faire des équations, où on pense que les acteurs, qu'on est sur un espèce de libre marché, où les acteurs sont égaux, où ils obéissent à leurs intérêts privés, particuliers, où les impératifs de rentabilité, de compétitivité, de croissance doivent primer sur tous les autres, etc., etc. Ça, cette vision de notre monde social et finalement aussi de notre monde environnemental, d'abord à l'aune de l'économisme, il faut bien avouer que ça a été en grande partie délétère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait arriver à s'en affranchir, ou plutôt à le remettre à sa juste distance. Pour l'instant, c'est vraiment pas encore le cas. Et ça a vraiment des effets lourds. Ça a des effets lourds, par exemple, parce que ça occulte toutes sortes d'alternatives qui pourraient nous permettre de construire autrement notre monde social, notre rapport entre les individus, les humains, les groupes sociaux, mais aussi notre rapport avec les choses environnementales, avec les choses non humaines, c'est-à-dire hors de ces logiques de compétition, d'excellence, etc. Peut-être en mise en plus sur de la coopération, sur de l'entraide, sur des institutions mutualistes, que sais-je, de la coopération internationale, enfin bon, bref, voilà. Donc, s'affranchir de cet économisme serait très important. Mais c'est loin d'être le cas. Hein. Enfin, moi, là, je vais difficilement être l'annonciatrice des bonnes nouvelles. Quoi. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de renforcer, dans certains domaines, ces logiques économistes sur les choses environnementales. On en reparlera peut-être si on parle de l'entrée compensation, mais par rapport à... voilà, à la,
on va en parler.
À la logique des dommages faits à l'environnement, on est de plus en plus dans l'usage d'outils qui viennent profondément de la pensée économique et qui ne facilitent pas du tout les choses, bien au contraire. Bon, donc... Après ça, la question du solutionnisme
technologique.
Voilà, ou plus précisément ce qu'on a appelé le technosolutionnisme. Ben ça aussi, c'est sûr, tout le monde peut l'observer autour de soi, en écoutant les infos, les nouvelles, l'évolution des choses, de voir combien est forte dans notre société la croyance que les technologies sont la solution et que les technologies vont toujours fournir une solution. Alors nous, dans le livre, on n'est pas du tout technophobe, hein, on n'en a pas contre les techniques. Quoi qu'en disent certains, on n'est pas du tout partisan d'un retour à la bougie, ni d'être des amiches, etc. C'est pas du tout ça. C'est d'avoir une pensée plus complexe et plus mature, finalement, moins bébête sur ce que sont les technologies, de se poser la question de ce que les technologies font au monde, comment elles le transforment, à partir d'un cadre épistémique et politique plus fondé que les turiféraires du technosolutionnisme bêta. Or, malgré tout, hein, on voit les ravages de ce technosolutionnisme dans beaucoup de discours publics, y compris de discours de nos élites politiques. Alors, et, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que, finalement, on n'arrive pas à penser en complexité le fait que, certes, des technologies peuvent fournir une solution circonscrite, mais que dès qu'on passe à la question de la mise à l'échelle ou du temps nécessaire pour les déployer ou du temps nécessaire pour changer de modèle technologique, etc., etc., ça pose tout un tas de problèmes. Que toute technologie peut produire aussi un effet rebond, par exemple sur les consommations énergétiques ou minières, ou peut déplacer le problème environnemental, apportant une solution ici quand elle va créer un nouveau problème ailleurs, etc., etc. Donc en fait, les technologies... Voilà, c'est quelque chose de très complexe, en fait, et il faut simplement se poser beaucoup plus de questions quand on prétend que les technologies vont nous apporter des réponses. En tout cas, pour ce qui est de répondre là de manière urgente aux problématiques écologiques majeures, par exemple l'effondrement de la biodiversité ou la question climatique, même si des technologies peuvent être utiles, les technologies ne sont pas, ne seront jamais à elles seules des solutions. Et continuer à croire ça, c'est dramatique parce que ça nous écarte, ça nous empêche de déployer les autres éléments d'une solution globale qui sont absolument indispensables. Et ces autres éléments, c'est quoi? Eh bien, ce sont au contraire des réformes, des transformations, des bifurcations qui portent sur notre manière de faire société et de nous organiser. Et ça, c'est pas du tout avant tout technologique.
Alors le dernier élément, c'est la pensée en
tu
silo.
Tu fais bien d'y revenir parce que du coup j'en oubliais le troisième. Mais effectivement, la pensée en silo, pour nous, c'est aussi quelque chose qui a été très, très fort dans notre réflexion quand on a essayé de dégager ces biais essentiels. Et là aussi, j'invite tous les gens qui nous écoutent à y être attentifs dans leur manière d'écouter les discours publics, d'analyser les solutions qui sont proposées, avancées, etc. Et ils verront, ils ou elles verront que la pensée en silo revient vraiment souvent. La pensée en silo, c'est le fait de ne plus voir qu'un seul aspect des choses, de se focaliser là-dessus et de considérer que ça va là encore apporter une sorte de solution clé en main. Alors, on en pointe surtout deux types de pensée en silo. D'abord, l'individualisme. On sait bien qu'on est dans une société qui est profondément structurée par l'individualisme. Enfin, c'est un cadre philosophique, politique, qui a d'ailleurs été fructueux, hein, qui nous a amené qui a accompagné, disons, une conception moderne de la liberté dans nos sociétés occidentales, mais en même temps qui est aussi très univoque. Et on a tendance à faire porter la responsabilité sur les individus. Pour les enjeux environnementaux, c'est souvent ce qu'on a appelé les petits gestes. Appeler les gens à faire attention à si, fermer le robinet,
leur truc,
trier le déchet, etc. Tout ça. Bon, tout ça, c'est pas faux. Il y a une part qui doit passer par des gestes individuels. Chacun doit faire sa part. Tout ça est vrai. Mais à ce point, insister sur l'individu en occultant ou en minorant ou en oubliant de mettre en avant l'aspect collectif du problème et combien les solutions doivent être déployées à échelle collective par des effets structurants qui viennent de l'organisation ou des politiques publiques qu'on met en œuvre. Ça, par contre, c'est absolument une pensée en silo qui est vouée à l'échec, qui laisse de côté la plus grosse partie du problème. Et je termine en disant que le deuxième effet de penser en silo, très clair et assez facile à comprendre, c'est le fait d'imaginer ce qu'on appelle aujourd'hui la transition, c'est-à-dire l'idée qu'on essayerait d'aller vers une, disons, moins d'atteinte à l'environnement, des énergies décarbonées, etc., etc., moins d'émissions, qu'on irait secteur par secteur. Donc, vous pouvez le constater tous les, enfin voilà, constamment à la radio, dans les médias, chaque secteur commence à dire ah mais moi je vais être décarboné, ah mais moi j'ai un aéroport qui sera neutre en carbone, ah mais moi mon tour opérateur finalement je vais le compenser, il y aura zéro émission, etc., etc. Mais tout ça en fait, si on met bout à bout toutes ces promesses secteur par secteur, ça ne passe absolument pas. Voilà, c'est un exemple type de pensée en silo.
On va faire une pause musicale avec une chanson forte à propos qui s'appelle Greenwashing et qui date d'il y a 10 ans. Ils étaient très précurseurs.
On veut du green, 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 greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du
c'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing. On veut du green, 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 washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 washing.
Bonjour, rebonjour, 89.4 Radio Libertaire, et nous reprenons notre interview à propos du livre Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public aux éditions du Seuil, avec l'une des responsables de ce livre, Laure Tellière. Alors, pour la deuxième partie, comme on l'a déjà dit, le livre est un lexique. C'est-à-dire, il y a cette introduction théorique, et ensuite le livre décline par ordre alphabétique, comme un dictionnaire, différents thèmes où s'exerce le greenwashing. Alors on va prendre quelques-unes de ces entrées. On va peut-être commencer par A, comme agriculture durable. Alors voilà, comment la nocivité de l'agriculture industrielle est dissimulée par le greenwashing.
Alors oui, ça c'est une entrée qui a été rédigée par Eve Fouilleux et Aurélien Berland. Donc effectivement, aujourd'hui, l'agriculture, c'est un secteur essentiel en fait, hein, essentiel par son impact sur l'environnement qui est extrêmement important. Bon, on pense assez facilement à la question des pesticides, mais il n'y a pas que ça en fait. Dans son processus de modernisation au long cours de l'agriculture, hein, qui a commencé il y a longtemps, on peut dire au 19e siècle, mais qui a été surtout très fort après la Seconde Guerre mondiale, en France, en Europe et dans l'ensemble du monde, l'agriculture est devenue, on peut dire, une sorte de machine à produire, extrêmement efficace, dont l'effet positif, ça a été incontestablement d'augmenter la production et d'arriver à nourrir les gens, mais au prix, en fait, de transformations considérables qui ont été, entre autres, la disparition du monde paysan, de moins en moins de gens nécessaires pour cette production, et qui dit disparition du monde paysan, c'est de tout un type de société, d'interaction, de ruralité, etc. Je m'étends pas. Mais aussi, il faut bien comprendre que ça a été une transformation qui a fait basculer l'agriculture dans une activité hyper intensive en termes d'énergie fossile. Notre agriculture, telle qu'on la connaît, elle est pétrolisée par les tracteurs, par les chaînes d'approvisionnement, les engrais qui sont produits avec du pétrole, etc., etc. Autrement dit, aujourd'hui, pour produire une calorie alimentaire, il faut beaucoup de calories d'énergie fossile. Et donc, on est là dans une espèce de goulot d'étranglement où il faut faire changer ça. Et puis, cette agriculture, elle a eu des effets majeurs aussi sur la transformation qu'elle a opérée sur notre rapport à l'environnement et au vivant. Jusque-là, l'agriculture, hein, depuis le néolithique, c'est une activité humaine qui, évidemment, a eu des impacts sur son environnement. On n'a pas déboisé, on a parfois surpâturé, etc., etc. Mais dans le second XXe siècle, c'est devenu absolument massif. Et aujourd'hui, l'agriculture est facteur d'une, comment dire, d'une artificialisation de bon nombre de milieux agricoles, et c'est une activité qui, dans son ensemble, laisse de moins en moins de place finalement à autre chose que les hommes et leur production et leurs animaux d'élevage. Il y a ce chiffre ahurissant que aujourd'hui, dans cette période qu'on peut appeler l'anthropocène, même si on peut discuter de ce mot et d'en choisir d'autres, mais prenons celui-ci, les hommes et leurs mammifères d'élevage représentent 97% de la biomasse des mammifères sur cette planète. Donc ça dit quelque part, de manière ahurissante, le peu de place que cette agriculture productiviste
a laissé aux autres,
au reste du vivant sous toutes leurs formes, hein, les bactéries du sol, dans des sols qui sont de moins en moins vivants, les espèces végétales et animales. On cultive aujourd'hui sur la terre juste quelques variétés de céréales, alors qu'avant on en cultivait plein. On cultive en plus juste quelques espèces particulières, et tout ça, voilà. Donc, il faut prendre en compte cette agriculture-là, ce modèle-là, qui est le modèle dominant et qui ne recule pas du tout aujourd'hui. Par exemple, des collègues, un groupe comme l'Atelier Paysan, qui a des analyses très intéressantes, hein, dit qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans une dynamique où cette agriculture industrielle continue à aller de l'avant, où tout ce qu'on a tenté de mettre en place pour faire autre chose en pensant que ça allait peu à peu se généraliser, parce que c'était mieux, partage d'huile, etc., comme le bio, les écolabels, l'agriculture locale, etc., en fait, reste une espèce de petite niche. Alors du coup, évidemment, c'est un univers qui est très propice au greenwashing. Et donc, il y a plein de promesses d'une agriculture qui sera à la fois hyper intensive, hyper productiviste, sans changer du tout ce paradigme-là, et par ailleurs vertueuse, verte, durable, etc., etc. Bon, alors, voilà, là encore, souvent, quand on porte cette critique-là, on peut être traité de, comment dire, on peut on peut dire qu'on fait de l'agribashing. Mais ça aussi, c'est un terme qui a été inventé pour que ne soient pas soulevés les problèmes. Car les premiers à dénoncer l'hégémonie de cette agriculture industrielle, ce sont certains agriculteurs eux-mêmes, justement.
Et c'est l'agribashing, c'est aller jusqu'au point de la création de la cellule Déméter, donc cellule de la gendarmerie spécialisée dans la lutte contre l'agribashing, ce qui revenait souvent à lutter contre les écolos.
Oui, bon. Oui, ça aussi, cette cellule Déméter, c'est quelque chose d'ahurissant.
Hein, ahurissant.
Ahurissant, absolument. Et du coup, enfin, les échecs en matière de verdissement de cette agriculture-là, hein, qui n'est pas toute l'agriculture, mais qui est l'agriculture dominante, sont notoires. Hein. Par exemple, les plans éco-phyto, qui étaient censés nous promettre une baisse des pesticides, hein, depuis le milieu des années, la fin des années 2010, et qui ont en fait augmenter la production de pesticides. Et aujourd'hui, il y a plein de discours vertueux sur l'agriculture 2.0, l'agriculture mécanique, l'agriculture par drone, etc. Bon, voilà, qui est une agriculture intensive en technologie, en énergie, donc à voir ce que ça va donner. Et du coup, effectivement, cette entrée dans le livre, elle soulève toutes ces questions-là.
Oui, vous écrivez même, vous, le collectif, je crois que le terme agriculture raisonnée, qu'on voit sur pas mal de produits qu'on peut acheter en supermarché, a été promu par la FNSEA.
Oui, oui, bien sûr. Bah, ça a été l'exemple type, finalement, d'une récupération pour s'opposer au vocable et au dispositif agriculture bio. L'agriculture bio, c'est quand même un mouvement qui est né dans certains milieux agricoles et de consommateurs dans les années 60-70, qui s'est auto-structuré autour de labels, qui a convergé vers un label unique, qui a été labellisé par les pouvoirs publics. Ça a été une tentative, quand même, encadré, disons, par des cahiers des charges, par des réglementations, voilà. Donc, on peut considérer de manière nuancée ce que ça a produit, mais il n'empêche que c'était quelque chose avec un certain degré d'exigence. L'agriculture raisonnée, c'est un terme, et c'est très creux en dessous, et ça a été typiquement une manière d'occuper le terrain et finalement d'enfumer le consommateur.
Alors, on va aborder une autre entrée qui est très importante, c'est comme compensation carbone.
Ah oui, alors ça, effectivement, ça fait partie des sujets clés, des sujets décisifs pour les années qui viennent, là, les 10 ans qui viennent, et au-delà sans doute, mais il faut que les gens soient de plus en plus au fait et de plus en plus capables d'analyser ces questions-là. Hein. Donc, maintenant que après un long désintérêt pour les enjeux climatiques, ou en tout cas une incapacité à prendre des mesures, etc., finalement, depuis au moins la COP de Paris en 2015, il y a une espèce d'alignement dans l'affichage des volontés publiques. C'est-à-dire que face vraiment à la situation d'extrême dangerosité dans laquelle on est, face au constat que les émissions carbone continuent à augmenter, les pays ont fini par prendre des engagements. Donc l'accord de Paris en 2015, c'est l'engagement de la communauté internationale, des États, à dire que on va essayer de ne pas dépasser viser de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation des températures globales de la planète et, si possible, de ne pas dépasser même 1,5 degré. Bon, aujourd'hui, on est déjà à 1,1 degré, 1,2 degré, et il y a désormais beaucoup de scientifiques qui osent affirmer que, vu qu'on n'a rien réussi à faire jusque-là, 1,5 degré, il est quasi impossible maintenant de ne pas les franchir. C'est-à-dire qu'on sait même, vu le budget carbone qui nous reste, hein, parce que ça se calcule, c'est très simple, hein, voilà, si on émet tant de carbone encore dans l'atmosphère, ben on dépassera 1,5 degré. Et vu la trajectoire d'émission sur laquelle on est, puisque aujourd'hui, enfin cette année, c'est encore l'année où on aura émis le plus de carbone de l'histoire de l'humanité, il faut en avoir conscience, Donc, vu cette trajectoire, eh bien, voilà, les analystes, les climatologues voient clairement qu'on risque d'arriver déjà à 1,5 degré dès la décennie 2030. Donc, c'est dans une dizaine d'années. Voilà. Bon. Du coup, le discours public est de plus en plus orienté sur le fait de dire qu'il faut la neutralité carbone. Alors ça, c'est vrai, les scientifiques nous le disent. Il faut arriver le plus rapidement possible à la neutralité carbone. Le problème, c'est que les manières d'y arriver peuvent être très différentes. La manière la plus sage d'y arriver serait d'essayer de diminuer tout de suite, le plus vite possible, de manière supportable par nos sociétés, c'est-à-dire en imaginant comment on pourrait s'organiser pour que ce soit supportable pour tous. Ça, c'est un enjeu politique. Mais en tout cas, en termes scientifiques, ce serait de diminuer le plus vite possible, de manière sûre. Or, de plus en plus, ce qui se profile, c'est des promesses de neutralité carbone. En
neutralité, c'est-à-dire qu'on
alors, neutralité,
on piégerait
ça veut dire
autant de carbone qu'on en émet.
Voilà, la neutralité, ça veut dire, et ça effectivement, c'est ce que disent les climatologues, il faut, pour que le climat cesse de se réchauffer, et que le climat cesse de se réchauffer, c'est un enjeu de survie de la planète, de l'humanité, du vivant qui habite cette planète, parce que sinon, ce sera la suite de l'histoire, se fera dans des conditions extrêmement dégradées et même assez imprévisibles dans leurs conséquences. Donc, la neutralité, ça doit être que le peu qu'on émettra encore, une fois qu'on sera au maximum sorti des énergies fossiles, il faudra que ce soit réabsorbé, retiré de l'atmosphère. Qu'est-ce qui peut permettre de retirer du carbone de l'atmosphère ? Ben, ce sont les puits de carbone naturel. Ça se fait automatiquement. C'est un cycle naturel. Le carbone est en partie réabsorbé par les sols, par l'océan, par la forêt. Voilà. Et ensuite, certains promettent maintenant qu'on va déployer des technologies pour absorber artificiellement ou retenir artificiellement le carbone au moment de la combustion et le stocker dans des dispositifs en profondeur ou d'autres. Alors, ces technologies, nous à la Técopole, où il y a, voilà, on est un groupe interdisciplinaire, donc il y a des physiciens, il y a des chimistes, il y a des géophysiciens, etc., etc. Bon. Et on va organiser encore un séminaire bientôt sur ce sujet avec d'autres spécialistes. Il est évident que ces technologies sont à l'étude, mais pour beaucoup d'entre elles ne sont pas encore opérationnelles, ou en tout cas pas opérationnelles dans un déploiement de grande dimension. Donc, est-ce que ça va être opérationnel un jour à ce niveau ? C'est très incertain, en fait. Et du coup, croire en ces technologies, en continuant d'émettre comme on le fait aujourd'hui et en remettant à plus tard le fait de prendre des décisions qui nous engagent à changer dès aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux en fait. Voilà. Et du coup, il faut que les gens arrivent bien à comprendre que la promesse de neutralité carbone à telle ou telle échéance, c'est pas du tout pareil que de prendre dès aujourd'hui un chemin de baisse drastique des émissions. Dans un cas, on est sûr de ce qu'on commence à faire, on est sûr de l'action. Dans l'autre, ça reste une promesse sur l'avenir. Or, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'États, de grandes sociétés, de groupes, d'activités qui promettent une échéance de neutralité carbone, mais il n'y a rien de très sérieux entre-temps pour y aller. Il n'y a pas de chemin très clair pour y aller. Et donc ça, c'est une espèce de greenwashing à la puissance XXL. Voilà.
Et on entend aussi beaucoup parler de compensation, c'est-à-dire d'aller planter des arbres à droite et à gauche. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire d'aller planter des arbres ?
Alors oui, la compensation, c'est un autre de ces grands enjeux, en fait, de ces grands enjeux qui sont devant nous. Et là aussi, ça obéit au départ à une logique qui pouvait sembler vertueuse. Hein, la logique de compensation, elle est née notamment en France, par exemple, était déjà présente dans la loi sur l'environnement de 1976, qui est la première grande loi sur l'environnement de ces années 70, où on commence à concevoir de manière globale la notion même d'environnement, la problématique de l'environnement. Et là, c'était ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. Donc l'idée, c'était que si des dommages étaient faits à l'environnement, à cette époque-là, on pensait plutôt par rapport à des aménagements. Par exemple, un aménagement pour faire une route, on est obligé de détruire des portions de nature, d'écosystèmes. Bon, l'idée, c'était éviter le plus possible, donc voir si on peut pas faire passer la route ailleurs ou construire ses bâtiments ailleurs, prendre une autre solution. Sinon, réduire, réduire les impacts au maximum, voir comment on s'y prend pour construire, voilà, les matériaux qu'on emploie pour réduire les impacts. Et si rien de tout ça n'est possible, ou si on l'a fait au maximum de ce qu'on a pu, le reste, compenser. Compenser le dommage qu'on fait ici en essayant d'améliorer la situation d'un autre espace naturel, d'une autre espèce menacée ailleurs, bon. Voilà. Donc, à la limite, à l'époque, il y a des naturalistes, des écologistes qui se sont dit, c'est mieux que rien, quoi. Voilà. On va compenser, ce sera déjà ça. Mais peu à peu, au fil du temps, on voit bien qu'on est entré dans une logique aujourd'hui où la compensation est saisie, comme on disait tout à l'heure, dans cette logique économique du tout se vaut. C'est-à-dire que finalement on va détruire un truc ici, mais c'est pas grave parce qu'on mettra de l'argent ailleurs sur quelque chose de tout à fait différent et ça vaudra compensation. Donc en matière de compensation écologique par rapport au milieu ou aux espèces, au milieu naturel ou aux espèces, aujourd'hui on voit des choses assez ahurissantes où il est possible de détruire ici par exemple le milieu d'habitation de telle ou telle espèce rare et finalement de compenser par des investissements ailleurs dans une activité toute différente, des garages à vélo ou un soutien à l'éducation, au développement durable, enfin voilà. Et l'Europe, hélas, semble-t-il, est en train de déployer ces solutions-là à grande échelle. Donc de ce côté-là, ça va pas du tout dans le bon sens. Et pour ce qui est de la compensation carbone, donc là où on dit on émet du carbone, mais on va le compenser parce que ailleurs il va être absorbé. On est aussi dans des pratiques comme ça qui sont très dommageables et qui parfois sont vraiment trompeuses parce que en fait faire pousser des forêts de compensation, c'est vrai, hein, des arbres en poussant ils vont absorber du carbone, mais qui nous dit que ces forêts vont être pérennes, hein? En Californie il y a quelques années là, quand ça a beaucoup brûlé, semble-t-il 10% de ce qui a brûlé c'était des forêts de compensation, donc là tout le carbone il est reparti dans l'atmosphère. On sait que les forêts aujourd'hui sont fragilisées par l'évolution du changement climatique, donc est-ce qu'on peut miser sur la compensation depuis de carbone qui eux-mêmes s'affaiblissent. Et puis parfois, ça cause des problèmes aussi parce que pour compenser, on va pousser des populations locales, on va récupérer de grands territoires, par exemple en Afrique, dans des pays du Sud, pour faire pousser des forêts de manière à nous continuer avec le mode de vie sans le questionner, pouvoir aller en avion à l'autre bout de la planète en prétendant compenser quelque part sur le dos des autres.
Ok. Alors on va aller un petit peu plus vite. Hein. Il y a E comme économie circulaire.
Un peu longue, mais
promu bon. Par le cabinet McKinsey.
Économie circulaire, c'est typique. C'est-à-dire que dans ce livre, j'en profite pour dire ça, parce que dans ce livre, toutes les entrées qu'on passe en revue ou tous les mécanismes qu'on passe en revue sont pas toujours mauvais. Hein. L'économie circulaire, l'idée du recyclage, d'un bouclage métabolique de l'économie, c'est plutôt une bonne idée. Il faut aller vers ça. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais nous, ce qu'on essaye de voir, c'est à quel moment d'une bonne idée on en fait quelque chose de trompeur, quelque chose finalement où on leurre les gens sur ce qui se met en place. Et donc l'économie circulaire, voilà, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut aller dans ce sens-là, mais on est loin d'une économie aujourd'hui qui serait entièrement bouclée sur elle-même. Le recyclage complet n'est pas possible. Et pour ce qui est de ce terme économie circulaire, ça a beaucoup été poussé par des lobbies qui sont des lobbies très capitalistes et qui, sous cela, continuent des pratiques extrêmement destructrices.
Voilà. Alors, je cite juste quelques entrées. N comme nature humaine, N comme nucléaire, V comme véhicule propre, V comme ville durable. Je voudrais te poser une dernière question. Qu'est-ce qui ne relève pas du greenwashing?
C'est la question qui tue, mais finalement, en un sens, c'est la question qu'on nous a posée souvent, on est allé d'une manière ou d'une autre, autrement formulée. En vérité, tu as raison, je pense que le greenwashing peut s'insinuer partout. Après, ça ne veut pas dire que tout ne serait que greenwashing. C'est bien ça. Ce qu'il faut comprendre, l'intention du bouquin, c'est pas de tout dénigrer ou de désaspirer tout le monde en disant tout est faux. Non, tout n'est pas faux. Mais le greenwashing, en effet, peut s'insinuer dans quasiment tous les domaines aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut être capable d'être en éveil, d'être affûté pour le débusquer.
Oui. Alors, Laure, je te remercie infiniment. On a un peu boulé sur la fin.
Qui étais longue.
Je rappelle le titre du livre, Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public aux éditions du Seuil. Donc, sous la direction d'Aurélien Berland, Guillaume Carbou et Laure Tellière avec le collectif
Atécopole. Merci à Radio Libertaire.
Et voilà. Et on se retrouve dans un mois, même jour, même heure. Et nous sommes bien sur Radio Libertaire 89.4. Le grand soir du mardi. Bien sûr.
Servile d'un quelconque vendeste irritable et orgueilleux, je l'ai dressé au naufrage. Mais qu'a-t-il donc cet équipage déguisé en concierge d'hôtel? Mais qu'ont-ils donc ce capitaine et leur sextant? Que cherchent-ils dans les étoiles? Quelque raison de déserter leur lassitude? Mais non pas, mon bon ami. Ils cherchent simplement la latitude, et c'est ça ce qu'ils ont fait de la mer. Une grande carte compartimentée où ils n'ont plus rien à découvrir.
Je suis venu, j'ai vu, je suis vaincu. Qui a fait sa bosse au bossu? Qui mène le bal, qui m'a fait bancal, qui a fait sa bosse au bossu. Diable ou Dieu, peut-être, les gens aux fenêtres, qui a fait sa bosse au bossu. Je suis venu, j'ai vu, je suis vaincu. Il n'y avait pas un chat dans la rue, pas un chat tigré, pas un chat crevé. Y'avait pas un chat dans la rue, pas un de ces PC pour me ramasser. Y'avait pas un chat dans la rue. Je suis venu, j'ai vu, j'ai mordu dans la peau d'un fruit défendu, dans la bergamote à pleine quenotte, dans la peau d'un fruit défendu. Mais mon fruit se trotte, me laisse en compote, dans la peau d'un fruit défendu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pas pu jouer aux petits soldats inconnus. Les chiens et les loups m'ont collé au trou, jouer aux petits soldats inconnus. Ma première minute de silence débute, jouer au petit soldat inconnu. Tu es venu, je ne t'attendais plus. T'as coupé la corde au pendu, et d'un geste, d'un seul, jeté mon linceul. T'as coupé la corde au pendu, et t'as dit au traître, je t'aime peut-être. Tu es venu, je ne t'attendais plus.
Mm-hmm. Thank you.